Abidi Nadia, représentée par Denise Vidal. Aoun Daniel, représenté par Martine Pascal. Blanc Michel. Body Bouquet Florine. Bonnet Michel, représenté par Isabelle Plot. Brossard Gonfon Anne-Marie. Cherubini Hervé. Clapier Jean-Pierre. Colombet Gabriel. Dourdin Carole. Favergeon Yves. Je pense qu'il va pas tarder à arriver. Gay Michel. Giovanetti Michel. Guénaud Jacques, représenté par Yves Nègre. Guignard Stéphane. Guillot Pierre. Ingoglia Angeline. Jodard Françoise. Lapère Pierre. Lobry Patricia. Marin Bernard. Marceau Jordan. Milan Henri, représenté par Angeline Goglia. Montagu Claudia. Je pense qu'elle a un petit peu de retard. Nègre Yves. Houlet Vincent. Pascal Martine. Perrault Ravès Gisèle. Plot Isabelle. Ponce Frédéric. Rebo Mireille. Vidal Fuentes Denise. Wild Mireille. Merci.
Merci. Alors, un certain nombre. Donc, comme d'habitude, je vous propose d'adopter, si vous en êtes d'accord, le compte rendu de la séance précédente. Séance du 23 janvier 2018. Y a-t-il des remarques sur ce compte rendu ? Pas de remarques particulières. Qui est contre l'adoption du compte rendu ? Abstention ? Unanimité ? Alors, on poursuit avec les décisions. La première, la numéro 2018-3, décision qui annule et remplace un certain nombre de décisions précédentes. Il s'agit de l'institution d'une régie de recettes au service scolaire. C'est une demande de Madame le receveur, de Madame Touvray, qui souhaite qu'on ouvre un compte spécifique d'encaisse destiné donc aux régies scolaires. Voilà. Donc, du coup, ça annule un certain nombre de décisions antérieures. Bon. RAS de particulier, hein, il y a un maximum de 1 000 euros, enfin, c'est une régie classique. La décision d'après que vous avez eue sur table parce que elle a été validée après la loi du Conseil, donc c'est la 2018-4, c'est le même principe que la précédente, hein, vous avez tout à l'article 7, voilà, un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur S-Qualité auprès du comptable public à signataire de Saint-Rémy-de-Provence. Voilà, et là ça concerne la maison de la jeunesse.
Monsieur le maire, oui. S'il vous plaît, je voulais remercier Madame Borel et Monsieur Vallée pour les comptes. Est-ce qu'il serait possible pour la Maison de la Jeunesse de les avoir à partir du début
de... Certainement, oui. Oui,
merci.
Ok. Alors, la décision d'après la 2018-5... mission d'information, de diagnostic et de conseil auprès des propriétaires soumis aux obligations légales de débroussaillement. Bon, vous connaissez hein, les OLD, ça nous préoccupe maintenant depuis un certain nombre de mois. Donc il s'agit d'une prorogation de délai. On va passer de fin janvier au 15 mars. Donc ça n'a aucune incidence financière, simplement on laisse un petit délai supplémentaire parce que c'est un gros travail. Hein. Ça concerne plusieurs centaines de particuliers. Donc c'est un gros travail pour les services et du coup il se laisse un mois et demi de plus. Voilà. Celle d'après, la 2018-6, raccordement pour une installation de consommation d'électricité. Donc c'est un contrat avec Enedis évidemment. Ça concerne le parking des attiques. Alors si vous y êtes allé, vous êtes certainement aperçu que le mât est posé. Enfin tout est fait, il manque plus que le raccordement. Donc, on a besoin de ce raccordement le plus rapidement possible. On espère qu'il interviendra courant mars, on va dire ça comme ça. Le but, c'est d'avoir la caméra avant la saison d'été, mais je pense que ça sera le cas. Voilà. De notre côté, on a tout fait. Il nous manque juste le raccordement. Alors, Monsieur Favergeon et Madame Montagu sont rentrés en séance. La décision d'après, la 2018-7, relative à des travaux d'urgence sanitaire pour la collégiale Saint-Martin. Donc là, il s'agit d'un avenant numéro 1. Alors, il y a tout un tas de hausses, de baisses. Bon. À la sortie, on est à moins 1011,76 €. Voilà. Donc c'est le marché initial, moins 1011,76 €. La décision 2018-8, achat de spectacles vivants. Donc ça, c'est classique, hein, on en passe régulièrement. Donc vous avez la liste des spectacles et leurs coûts. Voilà, je vous fais grâce de la lecture. Et enfin, la dernière décision, la 2018-9, tarif des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse. Voilà, vous avez un certain nombre de tarifs. Et juste une info, la sortie au bowling a été reportée pendant les vacances. Voilà, vous savez tout. Alors, on rentre maintenant dans l'ordre du jour du Conseil avec les délibérations. Première délibération, Monsieur Houlet.
Avenant numéro 1 au marché des Lagages, qui est détenu par la société Beaugarden. Il s'agit donc de constituer un avenant pour introduire des lignes supplémentaires au bord de route de prix unitaire. Première ligne, abattage par démontage pour un arbre dont la circonférence du tronc est supérieure à 2,50 m mesuré et à 1 m au-dessus du sol et à la hauteur supérieure à 20 m. L'unité, 1 100 € hors taxe. Et la deuxième ligne, location d'une grue de levage de 50 tonnes par heure, 198 € hors taxe. Aucune incidence financière sur le marché.
Merci. Oui. Madame Ingoubia.
Je voulais savoir ce que vous aviez prévu pour l'oïdium, pour les platanes.
Mathilde,
il
n'y
a pas d'oïdium. Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait de l'oïdium sur les platanes ?
Mathilde.
Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit.
Non, je dis que c'est souvent après la taille qu'il y a des attaques d'oïdium, effectivement. Mais après, je n'ai pas en tête. Un traitement particulier contre l'oïdium sur les platanes.
Alors, les platanes sont régulièrement attaqués par de l'oïdium parce qu'ils sont dans un état sanitaire pas tout à fait satisfaisant, ce qui fait qu'on a réduit les tailles à une fois tous les 3 ans. On a essayé d'avoir des techniques alternatives au Bacillus thuringiensis, qui est normalement utilisé contre l'oïdium. Donc, l'année dernière, on a commencé à faire quelques essais avec des entreprises locales sur des extraits d'orange notamment, donc on voit différents produits pour savoir ce qui serait le plus efficace, sachant que de toute façon, une fois qu'il y a des années où ils sont taillés, les attaques d'oïdium persistent et sont très difficiles à contenir.
Et d'autre part, je voulais savoir s'il n'était pas possible d'élaguer les platanes qui sont près de la collégiale, parce que quand il y a du vent, les feuilles doivent aller dans les gouttières.
Alors, quand les feuilles vont dans les gouttières, on enlève les feuilles des gouttières parce que deux fois par an, parce que sinon les arbres sont condamnés à court terme. Nous avons une expertise arboricole qui a été faite il y a moins de 10 ans, qui condamnait nos arbres à échéance de 20 ans si on continuait à les élaguer chaque année au mois de septembre, tel que nous le faisions avant. Donc on essaye d'être vigilant à ce que les branches n'aillent pas toucher les façades des voisins, que ce soit la collégiale ou l'ensemble des propriétés riveraines, notamment du Course. Et sinon, on essaye de faire une taille douce tous les 3 ans et de limiter le plus possible les interventions sur les arbres.
D'accord. Merci.
Merci pour ces précisions.
Monsieur. Juste pour les platanes, sur la route, je dirais, avant le collège, il y a eu des repérages qui ont été faits sur tous les numérotations, sur tous les platanes. Est-ce que, bon, c'est vrai que c'est pas des platanes communaux, mais est-ce que vous savez c'est pourquoi ont été faits ces numérotations?
Le département référence tous ces arbres pour des visites sanitaires qui sont plus facilitées par le référençage des arbres.
Bravo, Madame Mazuy, pour ces réponses techniques précises. Merci. Même sur les platanes qui n'appartiennent pas à la ville, c'est dire. Alors, je crois qu'on n'a pas délibéré sur cette proposition d'avenant. Donc, qui est contre cette proposition? Abstention. Unanimité. Délibération d'après. Pardon? Unanimité, c'est juste ? D'accord. Alors, délibération suivante, Monsieur Guignard.
Bien, bonjour à toutes et tous. Il s'agit ici de signer une convention désignant le PETR du Pays d'Arles comme regroupeur du programme Certificat d'économie d'énergie. Alors, à la fin de la délibération, je vous demanderai d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les papiers, évidemment. Un petit point d'explication au préalable. La dernière tranche du programme TEPCV, Territoire énergie positive pour la croissance verte, n'est plus sous forme de subvention à 80% comme on a eu jusqu'à maintenant. Il s'agit là d'utiliser les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire d'utiliser le dédommagement de certains organismes qui produisent du CO2 et qui revendent ces certificats d'économie d'énergie. Tout simplement, ça permet de financer à 100% des opérations d'économie d'énergie. C'est le Pays d'Arles qui doit regrouper tout ça. Pour information, c'est EDF qui a été sélectionné. Et la commune de Saint-Rémy doit pouvoir toucher autour de 100-120 000 euros pour des réfections de menuiserie, des isolations de toiture, des choses comme ça. Donc là, ce que je vous demande, évidemment, c'est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de regroupement annexée et à la présente délibération, ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du programme C2E TEPCV au bénéfice de la commune. Je vous remercie.
Merci. Pas d'intervention. Alors, qui est contre cette proposition de convention ? Pas de contre. Abstention. Unanimité. Merci pour cette belle opération sur la forme et sur les fonds aussi, puisqu'on va percevoir de l'argent, c'est très bien. Alors, on poursuit sur les affaires culturelles, Madame Laubry.
Oui, bonsoir. Il s'agit du renouvellement du partenariat que nous avons avec Provence Tourisme, qui n'est autre que... C'est que la dénomination a changé. C'est l'Office du Tourisme, donc des Bouches-du-Rhône, qui se nomme aujourd'hui Provence Tourisme. Donc on renouvelle notre partenariat à travers le contrat Pass My Provence, qui ne nous apporte guère de contraintes, mais qui nous permet de figurer sur le site donc de Provence Tourisme. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que nous avons eu la réalisation de reportages tournés au musée afin de promouvoir le patrimoine culturel. La seule contrainte, entre guillemets, qui nous est imposée, c'est de recevoir les ambassadeurs du département qui sont eux-mêmes munis d'une carte My Provence à qui nous devons accorder la gratuité si cette personne ambassadeur est accompagnée d'une personne payant le tarif plein. Donc il n'est demandé aucune participation financière aux partenaires, mais simplement de respecter les engagements dont je vous ai parlé. Assurer la gratuité durant la validité du partenariat, informer la structure des événements de l'établissement, diffuser les documents de communication au sein du musée et faire figurer sur le site internet de l'établissement le bandeau web du Pass My Provence. Je demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour l'année 2018. Je vous remercie.
Monsieur Guy, est-ce qu'on sait le nombre de Pass My Provence qu'il y a eu sur 2017?
Alors, c'est peu. C'est une vingtaine. Une vingtaine seulement sur l'année 2017. Mais par rapport au... Comment dirais-je ? Par rapport au musée, si vous voulez, le fait d'être partenaire est beaucoup plus important pour nous. Voilà. Donc, c'est vraiment peu que d'accueillir gratuitement les ambassadeurs munis de la carte MyPass.
Pour le coût financier, c'est juste pour savoir les retombées de combien de personnes étaient venues. C'est tout. Mais c'est une bonne initiative au niveau communication et qui ne coûte rien à la commune.
Alors, on peut délibérer sur cette reconduction du contrat Pass My Provence. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Avec le dossier culture. Oui. Alors, les dossiers finances. Première délibération. Donc, c'est passé en commission bilocale donc, il y a 15 jours. Je vous propose deux avances de subvention. Une pour la SSR, 15 000 euros, l'autre pour la courte échelle, 4 000 euros. Encore une fois, ce sont des avances. Oui, Madame Ingoulia.
Oui, j'attire votre attention, comme je l'avais attiré lors de la commission sur la vie locale, sur la gestion opaque de la SSR et sur la nécessité qu'une personne mandatée par la commune suive de près les orientations budgétaires de cette association. Parce que c'est pour le moins opaque et ça risque d'impacter un jour la gestion de la mairie.
Écoutez, monsieur Vallée est là. Hein, il est...
Non, mais on en a parlé, mais je tiens
le... Il est très attentif au suivi, suivi financier de la SSR. Ensuite, bon, il faut qu'on arrive à trouver la bonne limite entre contrôle, ce qui est notre devoir, et ingérence, ce qui est illégal. Quoi. On peut pas... Voilà, il faut qu'on trouve le bon curseur.
Simplement, quand le président de la SSR indique que le budget prévisionnel qu'il a donné est faux, pendant la commission, c'est un peu gênant. On peut se poser quand même pas mal de questions. Voilà. C'est tout.
Oui, non, mais écoutez.
Et je tiens à attirer l'attention du Conseil, parce que je ne tiens pas, moi, personnellement, à cautionner des choses qui sont pour le moins suspectes. Et sinon, de toute façon, voter l'avance, évidemment, il s'agit des enfants. Et pour les enfants de Saint-Rémy, qu'on la vote, effectivement. Mais le reste, il faut vraiment. Être très sourcilieux et regarder de très près ce qui se fait, me semble-t-il, pour le bien-être de la commune.
Quand il s'agira de la subvention habituelle de fonctionnement, qu'on propose toutes les années au conseil municipal, on sera effectivement encore plus vigilant que pour l'avance. On va faire en sorte d'obtenir tous les documents comptables nécessaires pour proposer une subvention. On a discuté l'autre jour avec le conseil de majorité, effectivement, il y a beaucoup d'élus qui s'interrogent quant au fonctionnement.
Oui, je n'étais pas la seule, mais je le dis.
Tout à fait.
Autre chose, pour la courte échelle, en quel honneur c'est pas passé à la commission de la vie locale ?
Pardon ?
Pourquoi c'est pas passé dans la commission de la vie locale à la courte échelle ?
Ah, alors écoutez, je n'étais pas présent à la commission de la vie locale. Ceci dit, encore une fois, il s'agit d'une avance.
Oui, c'est ça.
Donc, on vous propose une avance à la courte échelle, comme un certain nombre d'associations qui ont du personnel et qui ont du mal à tenir jusqu'à mars ou plutôt avril quand on va voter les subventions aux associations. Ceci dit, sur le fond, ça aurait pu passer à la commission. Qui c'est qui voulait intervenir ? Alors, ça, les avances, on n'est pas habitué, je me dis. Oui, commission vie locale.
Non, c'est pas passé. Non, la courte échelle n'est pas passée.
Non, mais est-ce qu'habituellement, les avances, elles sont discutées en commission vie locale ? C'est ça la question.
Donc, on vote contre ça.
Demande un vote séparé pour les deux subventions.
Allez. Alors, sur l'avance à la SSR, 15 000 euros. Qui est contre ? Pas de contre. Abstention ? Alors, 3, 6, 8, c'est ça ? 8, abstention. 9, 10. Donc, les groupes d'opposition, Madame Vidal et Madame Ribot. Alors, concernant la courte échelle, donc proposition d'une avance de 4 000 euros. Qui est contre ?
C'est à la vie locale, et voilà, c'est pour ça qu'on vote contre. Hein.
Alors, comme il y a 6 contre, c'est ça ?
Oui. 6.
6. Abstention ? 2 abstentions, vous avez le pouvoir de M. Milan. D'accord, 2 abstentions. Ok. Ensuite, alors cette fois, il s'agit de subventions, hein, ce ne sont pas des avances, de subventions exceptionnelles. Là, j'y étais pas, mais j'imagine que c'est passé à une commission vie locale. Donc, 600 euros pour le tennis club, qui sont allés disputer un huitième de finale de tournoi national en Corse. Ensuite, il y avait le quart de finale à Saint-Rémy, qu'ils ont gagné. parce que l'équipe adverse est partie. Très, très fair play. Oui, oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah bon ?
La décision, c'est ça.
Ils ont perdu sur le tapis vert ? Eh bien, no comment. Bon. Donc, enfin, en tout cas, ils ont gagné en Corse, c'est très bien. S'ils ont perdu parce que les adversaires ont refusé de jouer, c'est quand même surprenant. Mais enfin, bon, on va pas s'égérer dans les affaires internes du tennis. Et il vous est proposé 1000 euros de subvention exceptionnelle pour le 15 Saint-Rémois. Il s'agit d'un déplacement à Château-Renard des enfants de l'école de rugby. Voilà. C'est bon. Alors, qui est contre ces propositions de subvention exceptionnelle ? Pas de contre. Abstention. Unanimité. Oui. Oui, mets le micro.
Paris, et le club n'a pas voulu aller à Paris parce que pour la simple raison que sur le stade de Saint-Rémy, ils ont refusé de jouer. Et la décision a été prise en commun avec le club lui-même qui a dit on déclare au forfait, on ne va pas aller à Paris pour jouer les demi-finales. Voilà. Je crois que M. Benjamin il va te rencontrer, c'est ce qu'il m'a dit par téléphone. Voilà. C'est les Parisiens.
Ah, c'est les Parisiens qui vont plus jouer ?
Parce que.
Moi, j'y suis allé le matin, en fait. Le match, il devait avoir lieu à 9h. À 9h, les terrains étaient mouillés parce qu'il n'y avait plus dans la nuit. Donc, à 9h, ils ont repoussé. Les terrains étaient mouillés. Très bien. À 10h, les terrains étaient encore mouillés. Donc, les arbitres ont dit non, on ne peut pas jouer, c'est trop dangereux. Et ça a duré comme ça jusqu'à midi. Et à midi, quand les terrains étaient praticables, étaient secs, l'équipe adverse a dit ah, non, mais nous, on a le TGV à 16h et ça va. Moi, je suis allé déjeuner, je suis revenu à 14h, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, l'équipe est partie. Ah bon ? Bon, voilà. Ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, effectivement. Ils ont perdu. Bon, ben, écoutez. Ils ont perdu pour cause de pluie, donc c'est un peu dur quand même. Bon, enfin. On demandera des précisions. Alors, la délibération d'après, il s'agit de délibération classique de l'indemnité de conseil au receveur municipal. Donc, c'est un montant de 2 273,08 €. Comme toutes les années. Vous connaissez le principe, hein ? Pas de remarques ? Qui est contre ? Abstention ? Unanimité. Alors, à la demande de la trésorerie, pour la troisième fois, je vous propose de délibérer pour modifier la délibération numéro 2017-99 relative à une remise gracieuse de pénalité. Il s'agit toujours de la même affaire. Il s'agit donc de pénalités qui avaient été infligées à la société Mariani qui a fait le gros œuvre donc de l'Alpillon. Donc on avait trouvé un accord avec cette société, mais pour la troisième fois, c'est refusé donc. Ça a été refusé deux fois donc par la trésorerie. Et là, on en est à la troisième délibération. J'espère que cette fois, on pourra solder définitivement cette affaire. Mais je ne suis pas sûr, parce qu'apparemment, ça bloque, mais plus haut qu'à Saint-Rémy. Voilà. Alors là, nous, on a respecté à la lettre ce que nous a demandé la trésorerie, parce qu'encore une fois, on aimerait bien sortir de cette affaire. Je ne sais pas, M. Vallée, si vous voulez en dire plus. Non ? Bien.
Donc ça tiendra sur ce vote.
Monsieur Guy.
Il n'y a pas de. Non, on s'attiendra sur ce vote comme on l'avait fait la dernière fois.
Je n'ai pas compris. Bien, sur cette modification de délibération, qui est contre ? Abstention ? 6 abstentions ? Adopté. Alors, on passe maintenant au débat d'orientation budgétaire. Vous connaissez le principe. Dans toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants, donc toutes les intercommunalités, tous les départements, toutes les régions de France, et aussi toutes les communes concernées, donc on doit, dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, et là on y est puisqu'on va proposer le budget à la séance du conseil municipal du 27 mars, donc dans les deux mois qui précèdent, on doit débattre sur le rapport d'orientation budgétaire. Et ensuite, on devra voter, contrairement aux années précédentes, puisque la loi a modifié. Alors, dans ce rapport d'orientation budgétaire, les premières pages, ce sont le contexte général, donc on commence par le mondial, ensuite le national, le français, la loi de finances 2018, tout ça je passe assez rapidement, je pense qu'il est important de s'attarder plutôt sur CRMI. Sur le national, page 9, un point important, l'enveloppe DGF, donc l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement, est stable en 2018. Il y a eu une réduction de près de 4 milliards d'euros de cette enveloppe, mais ça a concerné les régions. On leur a diminué la dotation, on a augmenté la part de TVA qu'ils perçoivent. Bon, bref, il y a eu une espèce de jeu de chaises musicales là, entre dotations, mais ça concerne les régions, ça ne concerne pas les communes. Pour les communes, il devrait y avoir la même enveloppe que l'année dernière, ce qui ne veut pas dire qu'on aura la même dotation que l'année dernière, parce qu'il peut y avoir des mouvements au sein de l'enveloppe. Mais ça, on le saura au moment où nous serons notifiés les dotations. Alors, sur la partie nationale, page 11, un point qui intéresse toutes les communes de France. Donc, les bases fiscales vont être revalorisées en 2018 de 1,2%. De 1,2%, ça correspond donc à l'inflation entre novembre 2016 et novembre 2017. Ça correspond à l'indice des prix. Donc, automatiquement, les recettes fiscales vont augmenter de 1,2%. Ensuite, il y aura l'augmentation due à l'assiette, mais celle-là, on ne la connaît pas encore. Là aussi, il faut attendre les notifications. Alors, vous avez, page 12, un tableau indicatif, parce que c'est pas encore complètement bouclé, donc je ne peux pas vous dire quels sont les chiffres définitifs. Hein. C'est un tableau indicatif, mais qui donne quand même des orientations relativement précises sur nos dépenses 2017. Et vous vous apercevez, si vous comparez donc page 12, les crédits ouverts en 2017 avec les réalisations, c'est-à-dire la colonne de gauche et la colonne de droite, vous vous apercevez que tous les chiffres sur la colonne de droite sont inférieurs à ceux de la colonne de gauche. Donc ça veut dire que de gros efforts ont été faits sur les charges à caractère général. Hein, il a été beaucoup moins dépensé que ce qui était prévu. Sur les charges de personnel également. Et donc, sur ces deux chapitres, j'en félicite et j'en remercie les services municipaux. Pareil pour l'atténuation de produits, pareil pour autres charges de gestion, etc., etc. La seule ligne qu'augmente, c'est le chapitre 42. Il s'agit d'opérations d'ordre. Donc, ce ne sont pas des dépenses réelles, hein, puisque par définition, ce sont des opérations d'ordre. Et vous avez à peu près 160 000 euros de plus que ce qui était inscrit. Pourquoi ? Parce que sur ce chapitre 42 sont imputées les recettes des ventes de biens de la commune. Donc il y a 180 000 euros de ventes qui ont été effectuées, un petit local rue Espilly, le garage, là, c'est passé un conseiller municipal, et une maison en ruine rue Nostradamus. Tous les deux à 90 000 euros, donc ça fait 180 000 euros de ventes. Vous les avez donc en dépenses, ce chapitre 42, et vous les avez en dessous, en recettes, au chapitre 77. Ce qui explique qu'en recettes, au chapitre 77, vous ayez 261 000 euros, alors qu'on a inscrit 16 000. Voilà. Donc hormis ces opérations d'ordre, partout, les dépenses réalisées ont été inférieures et parfois très largement inférieures aux crédits inscrits. Donc du coup, sachant que les recettes aussi nous sont plutôt favorables, parce que là c'est l'inverse, hein, la colonne de droite est supérieure à pratiquement toutes les colonnes de gauche, nous avons des recettes supérieures à ce qu'on avait prévu, donc du coup on se retrouve avec un résultat de clôture de 1 727 656 euros, donc c'est le meilleur résultat de clôture qu'on ait obtenu dans cette collectivité depuis au moins, on n'est pas remonté plus loin, hein, depuis au moins une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est un très bon résultat. Évidemment, je ne peux que m'en réjouir. Ceci dit, on n'est pas certain toutes les années de retrouver les mêmes chiffres, parce qu'il y a de gros efforts qui ont été faits sur les charges à caractère général. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse tenir comme ça toutes les années. Sur le personnel, c'est pareil. Hein, il y a un gros travail qui a été fait, mais bon, combien de temps pourra-t-on tenir ? Et quant aux recettes, on a eu une excellente année donc sur les recettes de stationnement, plus que ce qu'on avait prévu. On a eu aussi une excellente année sur les droits de mutation, là aussi beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, de l'ordre de 300 000 euros. Donc tout ça, encore une fois, on n'est pas certain de le revoir en 2018. Ceci dit, on a un excellent résultat de clôture. Et je tiens vraiment à féliciter très, très, très chaleureusement, parce que ces bons résultats, ils sont dus au service, à Madame Borrell, plus à sa qualité, enfin, les deux. Autant à sa qualité de DRH qu'à sa qualité de DGS. Et Monsieur Vallée, bon, qui n'est pas forcément populaire dans les services parce qu'il dit plus souvent non que oui, mais bon, c'est son rôle de directeur financier et il l'assume parfaitement.
Tous les services.
Voilà. Ainsi que tous les services qui font des efforts. Voilà donc pour ces chiffres 2017. Ensuite, page 14, ben c'est ce que je vous disais, hein, 540 000 euros de droits de stationnement. Bon, c'est beaucoup plus que les 380 000 euros de 2016 et que les 155 000 euros de 2015. Donc, bon, les eurodateurs, ça a quand même une vertu. Ensuite, vous avez en bas de la page 14... les dotations que perçoit la ville de Saint-Rémy, 1 057 000 euros. C'est un chiffre en particulier pour la dotation globale de fonctionnement qui est bien inférieur à des communes un peu plus grosses que nous, comme Château-Renard qui a 1 294 000 ou Pélissane qui a à peu près la même taille que nous, 943 000. Nous, on n'a que 485 000. Alors, on se plaint depuis des années, mais malheureusement, ça n'a jamais donné de résultat.
Monsieur le maire, oui. Sur la DGF, oui. Bon, elle est décomposée bon, de la dotation forfaitaire aux communes, la dotation de solidarité urbaine et cohésion sociale, oui. La dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. Oui. Sur ces quatre dotations, quels sont le point qu'il faudrait améliorer pour arriver à Château-Renard, tout ça? Où c'est que ça blesse, je dirais? Où ça coince, vous ne connaissez pas?
Sur la DGF, vous avez le chiffre en bas de la page 14. Château, 1 294 000, bon, tant mieux pour eux. Hein. Pélissane, 943. Bon, Château, il y a 50% d'habitants de plus que Saint-Rémy. Hein, il faut... Bon, Pélissane, c'est à peu près la même taille. Ils ont 943 000 euros et nous, 485. Bon, vrai souci, quoi. Il y a un vrai souci.
Vous l'expliquez? Quel critère?
Sur quel critère ça
bloque?
C'est historique, ça remonte à la création des communes en 1982, où on est venu cristalliser un certain nombre d'impôts et dotations qui existaient à ce moment-là. Et depuis, ça n'a pas été révisé. Ça avait notamment été pointé par la Chambre régionale des comptes lors de son précédent rapport en 2008 et 2009. Et à ce jour, on n'a pas d'évolution possible.
Tant que vous êtes parlé du sujet de la Cour des comptes régionale, est-ce que vous avez eu des remontées depuis?
On n'a pas eu de contact avec eux depuis le mois de décembre et les dernières transmissions de pièces. Je pense qu'ils sont en train de lire.
On n'a eu aucun contact, on en parlait cet après-midi, on n'a eu aucun contact depuis 2 mois et demi. Pas de mail, pas de truc, rien. Alors, pour répondre précisément, vous avez parlé de la dotation de solidarité urbaine. On ne l'a pas parce que ça concerne les 750 villes les plus pauvres en France de plus de 10 000 habitants. Donc on n'est pas dans les 750. Très bien. La dotation de solidarité rurale, c'est les communes de moins de 2 000 habitants. Donc de fait, évidemment, on n'y est pas. La seule qu'on est, c'est la dotation nationale de péréquation. Et vous avez les chiffres, page plus loin, je ne sais plus où. C'est où, monsieur Vallée? Dites-moi.
Je ne suis pas sûr que ça y soit. C'est 136 000 euros pour 2017.
Oui, c'est page 25. Dotation nationale de péréquation. Voilà, vous l'avez, page 25. Bien, je vous propose de revenir. Donc, on était à la page 14. Page 15, là, il est question de l'investissement. Donc, ce sont les dernières lignes de la page 15. La section d'investissement, avec un montant de 4 760 000 en recettes et 4 143 000 en dépenses, donc dégage un excédent de 617 000 euros. D'accord? Il faut reprendre les moins 858 000 euros, donc, des restes réalisés. Donc, ça fait 858 moins 617. Moins les 74 000 de besoins de financement de l'exercice précédent, et il nous faudra 166 000 euros sur la section d'investissement. Mais bon, avec 1 716 000 euros d'excédent de clôture, on pourra largement les couvrir, évidemment. Alors, page 16, vous avez les principaux travaux réalisés en 2017 avec leur montant. Donc, Libération, rue du Centre-Ville, etc., etc. Vous les avez sous les yeux. Je vous en fais grâce. Voilà. Et vous avez aussi le remboursement à capital, 1 600 000 euros. Et nous avons emprunté 800 000 euros. Donc, évidemment, ça fait un différentiel de 206 000 euros. Et vous avez donc, page 17, le tableau de l'évolution de la dette, du stock de dette. Et vous apercevez que depuis le début du mandat, depuis 2014, ça a diminué régulièrement. 13 809 000, 13 408 000, 13 271 000, 13 579 et 12 974 au 1er janvier 2018. Voilà, on est passé sous la barre des 13 millions et c'est très bien. Ensuite, vous avez un gros chapitre consacré au personnel avec tout un tas, rédigé par Mme Borel, tout un tas d'indications. Hein. Sur présentation générale, répartition des agents par filière, catégorie hiérarchique, temps de travail, etc., etc., absentéisme, rémunération, formation, donc de gros efforts sont faits en matière de formation. Sur l'absentéisme, on est en dessous de la moyenne nationale. Et sur les droits sociaux. Voilà, donc, je vous ai passé ça rapidement parce que vous l'avez pas écrit sous les yeux, hein, donc je ne vais pas vous le lire, bien sûr. Quant aux orientations budgétaires 2018, eh bien, on va essayer de continuer sur la même lancée. Donc, trois objectifs. Un, ne pas augmenter les impôts. Deux, continuer à désendetter la commune dans la mesure de nos moyens. Hein. Si on peut le faire beaucoup, on le fera beaucoup. Si on peut le faire moyennement, on le fera moyennement. Si on peut le faire un peu, on le fera un peu. Mais en tout cas, on va continuer à désendetter la commune. Et bien sûr, on va essayer de maintenir un certain niveau de dépenses en investissement, parce qu'on a tout un tas de travaux qui sont programmés, plus d'autres qui se rajouteront, des achats de matériel, etc., etc. Voilà. Et ça, évidemment, ça vous sera présenté le 27 mars, lors de la séance publique, et avant, bien sûr, en commission, comme toutes les années. La page 25, on l'a vu, hein, c'est la dotation nationale de péréquation dont on parlait tout à l'heure, qui n'augmente pas, comme vous pouvez le constater, c'est le moins qu'on puisse dire. Et page 26, vous avez les projections de fiscalité directe, où là, évidemment, on a appliqué sur les bases le 1,2% d'augmentation voté par le Parlement. Voilà. Concernant les dotations de la CCVBA, a priori, ça devrait être le cas. Si on n'a pas un grand bond du FPIC, le FPIC, c'est le fonds de péréquation intercommunal et communal. Ce FPIC, il est passé de 40 000 euros en 2012 à pratiquement 1 million d'euros en 2017. Donc, augmentation exponentielle qui plombe vraiment les résultats financiers de la communauté de communes. Bien, si à la communauté de communes, on n'a pas à nouveau une augmentation exponentielle de ce FPIC, normalement, on devrait arriver à maintenir les niveaux de dotation des communes, donc l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. Voilà. Sur les droits de mutation, on va être prudent. Hein. Il y a eu deux excellentes années, 2016 et 2017. Mais bon, personne ne sait le sort qui nous sera réservé en 2018. Donc on va être prudent, comme toutes les années. Et si on a de bonnes surprises, tant mieux.
Monsieur le maire, oui. Je reviens à la fiscalité directe,
oui.
Par rapport à la taxe d'habitation.
Oui.
Par rapport à... C'est qu'un projet pour le moment, mais bon, l'exonération de la taxe d'habitation qui nous est annoncée par le gouvernement, comment 80% d'exonération sur 2 ans, comment vous l'anticipez par rapport à la somme que vous écrivez là?
Alors, vous avez dit c'est un projet, c'est pas un projet, hein, oui, c'est une réalité.
Oui, oui, réalité, non. Mais on ne le connaît pas aujourd'hui, les projections que ça va faire sur la commune. Est-ce que vous l'avez fait, vous?
Alors, en principe, en 2018, on devrait y retrouver nos petits. On devrait retrouver à quelques euros près les sommes qui sont prévues. Parce que le gouvernement va procéder sous forme de dégrèvement. D'accord. Donc, qui dit dégrèvement dit compensation totale aux communes. Donc... À mes yeux, après je me trompe peut-être, mais M. Vallée complétera, à mes yeux, en 2018, je ne pensais pas qu'on aura de problème. On va retrouver ce qui est prévu. L'interrogation, elle est pour les années qui suivent, 2019, 2020, 2021, etc., etc. Toute la question est de savoir si le gouvernement va rester sur les bases de 2018 avec une somme figée ou s'il tiendra compte de l'augmentation de l'assiette. Parce que vous savez que l'assiette, il y a toujours un certain nombre de constructions dans notre ville qui font qu'on a un 0,5%, 1%, 2% les bonnes années d'augmentation de l'assiette. Donc, est-ce que ce sera pris en compte ou pas? Cette année, on ne le saura pas puisqu'on va nous rembourser la somme de 2018. C'est en 2019 qu'on saura si on prend en compte l'assiette ou on ne prend pas en compte l'assiette. Et là, au bout de quelques années, ça pourra avoir une incidence. Bien. Alors, en bas de la page 27, sur les frais de personnel, donc cette année, il va vous être proposé une légère baisse, hein, vous avez le chiffre sous les yeux, entre moins 0,3 et moins 0,8. Là, encore une fois, c'est une prouesse de la DRH. Mais bon, il y a quand même quelques raisons objectives qui font que c'est possible. Puisque cette année, il n'y a pas d'élection. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait inscrit 80 000 euros pour les 4 tours d'élection. Donc évidemment, 2018, pas d'élection, c'est 80 000 euros en moins. Donc c'est une grosse somme. Il n'y a pas eu de revalorisation du point d'indice, comme ça a été le cas en 2016 et 2017. Donc évidemment, ça aussi, ça ne grève pas le chapitre 012. Et la fameuse PPCR... c'est quoi les deux P carrière rémunération, c'est quoi déjà les deux P? Parcours professionnel, carrière rémunération, oui. Et la PPCR, qui devait s'appliquer au 1er janvier 2018, a été repoussée d'un an au 1er janvier 2019. Sachant que la PPCR, ça allait entraîner quelques dépenses supplémentaires pour les communes. Donc, pas d'élection, pas d'augmentation du point d'indice et report de la PPCR, plus un certain nombre de départs qui ne seront pas forcément remplacés ou pas entièrement remplacés, ben, ça fait que on peut prévoir une masse salariale avec une légère baisse. Voilà. Au chapitre 011, donc charges à caractère général, comme l'année dernière, l'objectif pour les services, c'est stabilité, donc pas d'augmentation, 0% de croissance. Notre point d'inquiétude, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les OLD, les obligations légales des débroussaillements. Ça coûte cher aux collectivités, ça nous est imposé par l'État. On reçoit régulièrement des courriers très comminatoires de la préfecture. Bon, Saint-Rémy, c'est plutôt une commune à risque avec toute la partie piémont des Alpilles. Donc ce sont des dépenses importantes qui risquent d'être encore plus importantes si un certain nombre de Saint-Rémois refusent d'obtempérer donc à nos lettres recommandées ou aux indications de notre garde champêtre, M. Tournaire. Ça voudra dire que c'est la commune qui devra le faire. Et là, évidemment, ça générera, dans un premier temps, des dépenses. Derrière, on essaiera de récupérer, mais bon... Tiens, tu me dis, on est sûr si tu tombes sur des gens insolvables ou si... Bon, voilà, si derrière, on n'arrive pas à récupérer, ben... Voilà, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faudra qu'on fasse à l'avance sur les dépenses. Mais on fera tout pour récupérer, hein, parce qu'en plus... Bon. On fera le travail à la place de gens qui n'ont pas voulu le faire. La logique, c'est que ça ne soit pas avec de l'argent public. On est bien d'accord. Mais bon. Donc, voilà. On a une incertitude financière sur ces OLED et sur cette ligne-là.
Voilà. Pardon, monsieur le maire.
Oui.
Pour les projets, pour accompagner les projets de la collectivité, il y a l'accompagnement des usagers à l'utilisation d'outils numériques. Qu'est-ce que vous entendez par là, s'il vous plaît?
Eh bien, on va essayer de mettre en place un service à personnel constant, hein, à personnel constant. Je précise bien parce que je crois que c'est important par les temps qui courent. Donc, on va essayer de mettre en place un service pour accompagner les personnes qui n'y arrivent pas ou qui sont pas formées à ça ou qui ont jamais eu la possibilité d'être devant un écran d'ordinateur. On va essayer de les accompagner dans leur démarche administrative.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, vous le savez.
Je comprends très bien. Oui.
Aujourd'hui, vous le savez, si vous voulez un permis de conduire, vous êtes obligé de le faire en ligne. Ça se fait plus, carte grise, etc., etc. Et vous savez que
les impôts.
Les personnes âgées, c'est difficile, et pas que pour les personnes âgées. Donc, on va essayer d'accompagner les CRMois dans ces démarches.
De mettre en place un service pour ça.
Ce n'est pas obligatoire de la part des communes, hein, je tiens à le préciser.
C'est important.
On n'est pas obligé de le faire, mais je pense que c'est un service qu'on doit rendre dans la population, parce que on est le dernier maillon de la chaîne, en dessous de la commune, il n'y a plus personne. Donc, si c'est pas la commune qui le fait, je me demande qui le fera. Et on peut décemment pas laisser 10 ou 20 ou 30% de la population complètement désemparée devant des services en ligne que seule une génération où les gens qui ont eu la chance de pouvoir s'y former peuvent faire, quoi. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc Madame Borel travaille là-dessus. Je sais pas si vous voulez compléter. Hein. Non. Bon. C'est pas bavarde. Bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez un tableau page 30. On en a presque terminé. Donc avec quelques projections budgétaires pour 2018. Donc ce tableau page 30, il faut le rapprocher du tableau que vous avez page 12. Et donc vous vous apercevez que sur les charges à caractère général, on a dit 0% d'augmentation. Bon, on arrondit, hein. Il y avait 3,593 millions, on a arrondi à 3,6 millions. Ça, c'est un détail. Sur les charges de personnel, on est un peu en dessous, puisqu'on avait 8,180 millions, et là, on proposera quelque chose autour de 8,120 millions. Atténuation de produits, c'est pareil. Autre charge de gestion, il y avait 2,374 millions, on arrondit à 2,4 millions. Charge financière, il y en a un petit peu moins, puisque chaque année, on rembourse un peu du stock de la dette, enfin, on diminue un peu le stock de dette. Et pour les charges exceptionnelles, il y avait cette année 431 000. On a inscrit que, enfin, on vous proposera d'inscrire que autour, je dis autour parce que c'est pas encore le budget définitif, que autour de 249 000 et quelques, bon, 250 en arrondissant, parce que l'année dernière, il y avait dans les charges exceptionnelles les 20 euros par habitant sur la régie de l'eau, qu'on a dissous, donc, qui sont passés par les finances municipales et qui sont retournés à la communauté de communes. Donc, on n'aura plus ces charges exceptionnelles, évidemment. Voilà. Pour le reste, l'amortissement à 20 000 euros près, c'est le même que l'année dernière. Et le virement à la section d'investissement, il était prévu à 380 000 en 2017. Et là, on vous propose de le porter à 510 000. On l'augmente parce qu'encore une fois, on a un excellent résultat de clôture. Voilà. Sur les recettes, comme à son habitude, M. Vallée a été prudent. Et il a raison, parce que bon, il vaut mieux qu'on soit prudent et qu'on ait des bonnes surprises plutôt que l'inverse. Donc, il a inscrit des sommes tout à fait raisonnables. Et en regardant ces chiffres, je me faisais la réflexion. Vous avez pu avoir les chiffres d'il y a quelques années sur les dotations et les... Comment ? Pardon ?
On est passé de 800 000 euros à 1,3 million concernant les produits des services, oui, et de 2,5 millions à 1,5 million concernant les dotations.
Alors, quand vous regardez la proposition de budget page 30, vous vous apercevez que les produits des services et du domaine, en gros, les horodateurs, les marchés, etc., etc., les droits de terrasse, bon, vous avez 1 275 de prévu. Je pense qu'on fera un petit peu plus, puisque cette année, on a fait 1 341, mais bon, on est prudent. Allez, j'arrondis à peu près 1 3. Et vous apercevez que sur les dotations et participations, ben, on a inscrit 1 372. Donc, en gros, on a vente des produits du domaine 1 3 et dotation de l'État 1 3 et quelques. On a à peu près la même somme. Bien. Il y a quelques années, c'est le chiffre que j'ai demandé tout à l'heure à M. Vallée de vérifier, il y a quelques années, donc, on avait 2,5 millions d'un côté et 800 000 de l'autre. Donc, on avait trois fois plus de dotations que de recettes de vente de services et du domaine. Aujourd'hui, le chiffre est identique. Donc, c'est dire l'évolution des recettes de notre collectivité. Hein. Les dotations se sont écroulées. Elles ont été divisées par deux, à peu près. Par contre, évidemment, il a fallu compenser. Et on a compensé, en particulier, avec les produits du domaine. Voilà. Et heureusement qu'on est dans une ville où on a la chance de le faire. Sinon, je pense qu'on aurait dû faire appel à la fiscalité. Voilà, c'est une réflexion que je me faisais en regardant les chiffres ce soir en préparant le conseil municipal. Comment ? Et Yves Favergeon me fait remarquer qu'à la sortie, il manque quand même 1 million. Ben oui, c'est sûr. On n'a pas compensé toutes les baisses de dotation de l'État. On les a compensées qu'en partie. Le reste, c'est de la gestion serrée. Et encore une fois, je remercie les services. Voilà donc pour ce rapport d'orientation budgétaire. Oui, j'ai oublié la partie investissement. Donc vous avez tout un tas de choses que vous connaissez déjà, puisque c'est passé en délibération du conseil municipal. Les projets d'investissement 2018, donc les échelles du Mont-Gossier, vous connaissez. La chaufferie bois de l'école de l'Argelier, qu'on va inaugurer prochainement, courant mars ou début avril. Travaux d'accessibilité et d'amélioration du COSEC, la rénovation du tennis club, les jeux d'enfants du Square Moron qui vont démarrer. On va finaliser le PLU, c'est une dépense d'investissement, et les classes numériques mobiles. Voilà, plus tout le reste, l'entretien habituel de la voirie, le matériel, le renouvellement de matériel, camion, etc., etc., et les travaux forestiers dont on a parlé. Plus les opérations nouvelles qu'on va inscrire en 2018, donc l'avenue André-Denis Pélissier, l'avenue de la Libération. On va faire les rues Louis-Mistral, vous le savez. On va faire le parking du collège et les travaux Square Moron, j'en ai déjà parlé. Plus la tranche annuelle d'accessibilité et on va aussi acheter une balayeuse en 2017. Voilà donc pour les principales dépenses d'investissement et peut-être d'autres si les moyens le permettent. 2018, oui, pardon. Vous avez raison. Voilà sur ce rapport d'orientation budgétaire. Y a-t-il des remarques ou des commentaires ? Pas de remarques ? Bon, nous avons un excellent résultat de clôture. Cette ville est bien gérée.
Point à vote.
Pardon ?
Point à vote.
Pardon ? Il faut le vote. Il faut un vote. Alors on va voter avec enthousiasme sur ces chiffres. Vous avez raison, hein, c'est changement, donc je ne me suis pas fait encore. Alors, on doit voter pour approuver ou pas le rapport d'orientation budgétaire. Sauf s'il y a des remarques, pas de remarques. Alors, qui est contre ? 8 contre ? Abstention ? Adopté. Ensuite, dossier passionnant. Donc, on vous propose un accord local relatif à la répartition des sièges du conseil communautaire de la CCVBA. Alors, pourquoi on vous propose ça ? Il y a eu un accord local en 2014, après les élections municipales. Un accord local qui a permis d'avoir 25% de sièges supplémentaires que ce que la loi nous accordait. La loi pour les intercommunalités entre 20 000 et 30 000 habitants, ce qui est notre cas, on est 28 000 et quelques, elle accorde 30 sièges aux intercommunalités, plus dans la répartition, un siège par petite commune qui n'aurait pas un siège à la répartition à la plus forte moyenne. Donc il y a deux petites communes, Les Baux et Masblanc, donc ces deux communes ont droit à un siège, en plus des 30. Ça nous fait donc 30 de sièges, ça c'est s'il n'y a pas d'accord local. Si on se met d'accord sur un accord local, c'est le cas de le dire, on a 25% de plus, donc on passe de 32 sièges à 32 plus un quart, 32 plus 8, 40 sièges. C'est ce qui était le cas dans notre communauté de communes, jusqu'à ce qu'il y ait démission du conseil municipal de Fontvieille. Donc, démission du conseil municipal de Fontvieille, c'est plus la règle de 2014 qui s'applique, parce qu'entre-temps, il y a eu une jurisprudence de juin 2014, ça a pas traîné après les élections. Il y a une jurisprudence qui, en gros, a dit dans vos accords locaux, vous devez respecter la proportionnalité du nombre d'habitants. Donc on peut plus s'arranger en disant, bon, ben, Saint-Rémy, on a beaucoup d'élus, on en rend un au Beau et à Masblanc pour qu'ils aient deux élus, et nous, au lieu d'en avoir 13, on en a 11, au lieu d'en avoir 14, on en a 12. Ça, on pouvait le faire précédemment. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. On est obligé de respecter une certaine proportionnalité. Et sur une base de 100, on peut aller soit jusqu'à 120, soit de 80 à 100. Donc, il y a un magnifique calcul qui a été fait sur le simulateur du ministère de l'Intérieur. Et ce calcul donne, pour Saint-Rémy, 14 sièges. Pour Fontvieille et Mouriès, les deux plus grosses communes après Saint-Rémy, 5 sièges. Pour Maussanne, Égalières, Paradou, il m'en manque une, Saint-Étienne et Nugrès, c'est ça, 3 sièges. Pour Oreille, 2 sièges. Et pour Masblanc et Les Baux, 1 siège. Voilà. Donc ça, c'est pas un choix de la collectivité, hein. C'est la répartition en cas d'accord local. Voilà, ce sont les chiffres du simulateur du ministère de l'Intérieur. Et là, effectivement, si on applique ces chiffres-là, Saint-Rémy est à 99% de représentativité, très bien. Fontvieille à 96, Mouriès à 101, Les autres communes, 85, 93, 107, 114, donc tout le monde est entre 80 et 120, 89, sauf Masblanc et Les Baux qui sont à 134 et à 177. Mais je vous rappelle que la loi dit que toutes les communes ont au moins un siège. Donc même s'il y avait 12 habitants dans une commune, elle aurait un siège. Et évidemment, elle aurait une représentativité de quelques milliers de pourcents. Mais bon, c'est la loi, donc eux, ils ont droit à un siège. Voilà ce qui explique que ce soir, on doive redélibérer pour accepter cet accord local avec une répartition différente de celle qu'il y avait en 2014, puisqu'entre-temps, il y a eu une jurisprudence qui a fait qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut au sein d'un accord local, c'est cadré entre les 80 et 120. Donc jusqu'à présent, toutes les autres communes de la communauté de communes ont adopté l'accord local. Il manque plus que Saint-Rémy et, je crois, une ou deux autres communes. Mais le vote de Saint-Rémy est important, puisque on représente plus d'un quart de la population de la communauté de communes. Donc il faut qu'il y ait la ville de centre, si elle représente plus d'un quart de la population, qui accepte l'accord local, pour que l'accord local soit accepté. Voilà. Si Saint-Rémy vote contre, il n'y a pas d'accord local. Ce qui serait un peu dommage, parce qu'on se priverait de 8 élus à la communauté de communes. Voilà. Vous savez tout. Et évidemment, si cet accord local est accepté, on passerait de 13 représentants de la ville de Saint-Rémy à 14. Donc il nous faudrait, lors du prochain conseil municipal, désigner un représentant de plus de la commune. Voilà. Bon, je vous ai assommé avec mes explications. Oui, ben on va voter, écoutez. Bon, ben on va passer aux voix. Hein. Donc, sur cette proposition d'accord local, qui est contre ? Pas de contre. Abstention ? Pas d'abstention. Unanimité. Très bien. La communauté d'agglomération d'à côté, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont refusé l'accord local.
Cabane a refusé.
Eh oui, mais il y a suffisamment de communes pour que... Et je crois qu'il y a la ville centre aussi. Je crois qu'il y a la ville centre, du coup, il n'y a pas d'accord local. Ben, ils passent de 7 à 12, donc ça les intéressait pas. Voilà. Mais bon, occupons-nous de notre communauté. Hein, voilà. Bien, on poursuit avec les affaires de personnel, M. Favergeau.
Donc la délibération qui vous est proposée là, elle vient compléter une délibération qu'on a prise en décembre concernant la mise en place du RIFSEPS. Donc le RIFSEPS, pour mémoire, hein, c'est le nouveau régime indemnitaire, je fais simple, qui reprend au centime d'euro près ou chaque fois que c'est vraiment possible les régimes indemnitaires qui étaient précédemment définis dans cette collectivité suite à des délibérations successives que nous avons prises ici. Donc on a voté ça en décembre et ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'apporter des précisions à la délibération de décembre, parce que il est vrai qu'il y avait certains points qui méritaient d'être écrits, en fait, d'être précisés. Donc les précisions qui sont apportées, c'est le paragraphe qui commence par à partir du 15e jour calendaire, le paragraphe qui est le troisième paragraphe, en fait, d'accord. On a ajouté à la fin de ce paragraphe l'IFSE est suspendu pendant les congés pour maladie ordinaire suivant dès le 30e jour, ok. Et ce qu'on a ajouté, c'est à hauteur de 1/30 de retenue par jour d'absence, ce qui veut dire la même chose que le début de la phrase, mais ce qu'il était important de préciser à la demande de certains agents. Voilà. Et les quatre autres alinéas, je vais vous faire grâce de la lecture, mais les quatre autres alinéas viennent en fait formaliser des choses qui se pratiquent déjà, qui sont la règle dans cette collectivité, qui sont la règle en général d'ailleurs, des choses qui se pratiquent déjà chaque fois que des agents sont placés en congé de longue maladie ou de longue durée. Voilà. Donc pas de nouveauté, pas de changement pour les agents, mais simplement on formalise les choses et on sécurise ainsi le régime indemnitaire qu'on a mis en place en 2017, en décembre 2017, dans le cadre du RIFSEP.
Bien. Alors, qui est contre cette proposition ? Abstention ? Unanimité ? Suite.
Donc la délibération suivante, c'est une délibération très classique qu'on retrouve quasiment à chaque conseil. Il s'agit de recrutement d'agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc c'est la délibération qu'on retrouve qui nous permet d'embaucher des contractuels de telle manière d'adapter les services aux les besoins aux services ou les services aux besoins en fonction des absences des uns et des autres. Voilà. Donc un agent contractuel à temps complet au grade d'adjoint d'animation, un agent contractuel à temps non complet au grade d'adjoint d'animation, un agent contractuel à temps complet au grade d'adjoint technique territorial, coordinateur des restaurants scolaires, 5 agents contractuels à temps complet au grade d'adjoint technique territorial et un agent contractuel à temps non complet au grade d'adjoint technique territorial. Voilà.
Bien. Alors, qui s'oppose à cette proposition ? Abstention ? 8 abstentions, adopté. Ensuite.
Alors, la délibération d'après concerne le comité technique qui siège ici en mairie et qui est un comité technique qui réunit le comité technique pour la commune et pour le CCAS. Donc, vous le savez, il y a des élections professionnelles qui ont lieu en décembre 2018. On va donc renouveler les représentants du personnel au sein de ces instances. Et ce qui vous est proposé ce soir, c'est de reprendre une délibération qu'on avait prise à l'époque pour créer un comité technique commun entre la commune et le CCS, de telle manière que dans cette seule et unique instance soient représentés les agents du CCS et les agents de la commune. Alors, quand je dis collectivité de comité technique, il s'agit aussi du CHSCT. Hein. Voilà.
Bien. Sur cette création, qui est contre ? Abstention ? Unanimité ? Ensuite ?
Et la dernière délibération concernant le personnel, il s'agit du renouvellement de la convention de partenariat entre le CNFPT et la ville de Saint-Rémy pour un certain nombre de stages et de formations qui ne sont pas pris en charge par la cotisation obligatoire. Voilà, donc cette délibération, on la retrouve régulièrement. Et donc, il s'agit de la renouveler pour permettre au service de fonctionner dans de bonnes conditions.
Très bien. Madame Borel, sur le compte rendu, je ne prendrai pas part au vote, travaillant de temps en temps pour le CNFPT, même si je ne travaille pas, évidemment, pour des raisons déontologiques dans les Bouches-du-Rhône, mais bon, je préfère ne pas prendre part au vote. Alors, sur cette délibération, qui est contre ? Abstention. Unanimité des votants. Bien, nous avons reçu une question diverse, mais nous l'avons reçue hors délai. Je vous rappelle que les questions diverses doivent arriver avant 16h30 le vendredi. Donc, alors je ne veux pas fuir la question, hein, on vous répondra, mais par écrit. Par courtoisie vis-à-vis des services qui attendent les questions diverses et qui parfois restent un quart d'heure ou 20 minutes de plus, me permet de vous demander d'essayer d'adresser les questions diverses dans les délais, quoi. De mémoire, elle est arrivée à 23h ou 23h30. Bon. C'est 2 jours francs avant. Hein. Pardon ? Oui, non, mais bon. Comprenez que, encore une fois, la question, on peut y répondre et on y répondra par écrit.
C'est vrai qu'on a peut-être un peu débordé de quelques heures, mais aussi à ce moment-là, je voudrais vous demander de me demander de venir signer le conseil municipal, pas la veille pour le lendemain. Ça fait 2 fois que ça se reproduit. Je préférerais venir dans le mois, comme ça se faisait avant.
Et quel conseil ?
Le compte rendu.
Ah oui, mais attendez, là c'est exceptionnel.
Ça fait deux fois.
Non, mais le dernier conseil municipal, il a eu lieu.
Non, mais je ne vous l'aurais pas dit, mais comme vous tatillonnez pour quelques heures, moi je vous dis, voilà.
C'est même pas, encore une fois, c'est même pas pour la question. En plus, vous avez la réponse à la question. On vous la fera, la réponse. Mais c'est vis-à-vis des services. Il y a un agent, vous pouvez demander à Mme Borel, vous le confirmera, il y a un agent qui a attendu 2 heures en se disant « Bon, peut-être il y a un peu de retard, je vais attendre et tout. Bon, » c'est pas sympa pour elle, quoi. Voilà.
C'est vrai que les agents du secrétariat général patientent souvent jusqu'à 17h pour être sûrs de réceptionner le mail. Et bon, là, c'était vraiment très, très au-delà de l'horaire convenu.
Bien. Pas d'autres interventions ? Alors, merci à toutes et à tous. La séance est levée.